Vivre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des glous.
Bonsoir et bienvenue dans le 266e numéro de l'écho des glous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir, comme toutes les deux semaines, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et je suis également, nous sommes également avec une vieille connaissance. Bonsoir François.
Bonsoir.
François pour les vieux habitués de l'émission qui était donc un des animateurs de la phase B. Qui maintenant est revenu dans sa Normandie natale, mais que l'on
retrouve il s'est trompé route cette fois-ci.
Avec grand plaisir. Sébastien doit aussi également nous faire un petit coucou lors d'une prochaine émission. C'est donc l'actualité des deux semaines écoulées. On va commencer, comme d'habitude, par des nouvelles Internet et vie privée. On va commencer avec Mozilla, Mozilla donc, qui documente les bâtons qu'on leur met dans les roues pour rester un navigateur indépendant.
Ok, je croyais que tu allais dire pour rester poli. Oui, parce que...
On ne va pas commencer les jurons dès la première minute, Pierre.
Ouais, mais il y a de quoi quand on voit quand même ce genre de choses. Donc c'est paru sur le blog de Mozilla, ils appellent ça Platform Tilt. Donc ils ont décidé de documenter toutes les crasses qu'on peut leur faire. Et il y en a quand même un certain nombre. Alors en plus... Ça va collisionner avec une autre actualité. C'est une parution qui date de... Enfin, c'est un tracker de bugs, donc c'est ouvert, on va dire. Mais avec les dernières actualités en plus, on en parlera tout à l'heure par rapport à Apple, il y a encore d'autres choses qu'on pourrait rajouter. Donc là, dans le lot, ils disent du côté d'Apple, on a toute une poignée d'issues, de problèmes sur l'interdiction d'avoir un moteur alternatif sur iOS, l'interdiction d'avoir le support de telle fonctionnalité sur iOS, etc. Du côté de Google, la même chose sur Android, donc Android qui est particulièrement fermé, où celle-là, je l'aime beaucoup, diminution de la qualité de la page de recherche lorsqu'on utilise autre chose que Chrome sur Android. La page, elle est moins bien présentée, elle est moins lisible.
Et par qui ? Par Google ?
Par Google, évidemment.
Ouais, il faut un peu de la méthode Microsoft, quoi. Hein,
là, clairement, il y a une capture d'écran. Je ne savais pas qui faisait ça. C'est dégueulasse. La capture d'écran, c'est la même recherche. Donc, c'est un vol. United 901, en l'occurrence. Et donc, quand on cherche sur Google avec Chrome, Android, ça affiche pour aujourd'hui, donc le vol. Il est à telle position actuellement entre San Francisco et Londres. Il arrivera à telle heure, à tel terminal, à telle porte, etc. Mais c'est tout joli, c'est bien mis en forme et tout. La version Firefox, il y a juste un pâté. Un pâté de texte. Il arrive à telle heure, il est parti à telle heure. Mais t'as pas un truc présenté, lisible.
On a décidé de changer le CSS en fonction du navigateur.
Oui.
Voilà, comme ça.
Voilà. Et même du côté de Microsoft, il y a encore des... Vincent en a parlé, il y a des astuces sur, empêcher de faire que on change vraiment le moteur par défaut, que ça change, mais pas partout, ce genre de choses. Donc ouais. Voilà, c'est c'est juste une liste de ce qu'il y a actuellement.
Donc Microsoft propose, vous êtes sûr en fait, que vous ne voulez pas essayer Edge quand même en fait.
Exactement. Alors, mais je ne suis même pas sûr qu'ils l'ont mis dans la liste, parce que là, c'est surtout les cas de... Je pense que vous avez envie d'utiliser Edge, je vous le remets par défaut. Parce que Microsoft fait ça aussi. Mm-hmm. Ils vont quand même assez loin. Hein. Bref, un monde ouvert.
Vous avez annoncé lors de la précédente émission que Google allait permettre donc de délier les comptes entre les différents services que vous pouvez utiliser chez eux. Et Meta a annoncé faire la même chose pour les utilisateurs qui résident dans l'Union européenne.
Bah oui, parce que l'Union européenne, c'est quand même des vilains. Hein. Ils obligent nos grandes fiertés du numérique à faire des choses. Ils sont pas d'accord.
Et donc, m'expliquer en quoi Meta est une de nos grandes fiertés.
J'en sais rien. Moi, je cite juste les zinzins qui défendent ces trucs-là. Hein. Je n'ai pas compris encore l'idée. Mais donc, effectivement, pour respecter la loi, ils sont obligés de dire désormais, vos données. enfin, les données que vous mettez sur Instagram, les données que vous mettez sur Facebook, eh ben, on ne va pas les mettre dans le même silo, on ne va pas s'en servir pour alimenter l'étude de comportement, la publicité ciblée, ce genre de choses. Ils sont obligés de séparer les services. Mais c'est con comme truc, mais en fait, c'est bien, du coup. C'est pareil. Ben, ou alors, moi, je n'utilisant pas les plateformes de Meta, je ne sais pas exactement ce que ça implique. Mais du côté de Google, en tout cas, me dire que ben, voilà, Google ne peut plus utiliser les mails pour faire de la publicité pour, qui me cible sur YouTube, par exemple, je trouve que c'est plutôt positif. Je le vis bien, pour ma part.
On reste sur Meta qui confirme aussi avoir entraîné son intelligence artificielle sur des données qui étaient soumises au droit d'auteur ou au copyright hein, concernant les anglo-saxons sans y être autorisé.
Oh bah dis donc, c'est étonnant dis donc, ça alors.
On vous avait annoncé la semaine dernière que donc le New York Times avait réussi à trouver la supercherie.
Oui, ben là il y a, alors ça avait été déjà démontré par des tiers. Ben, mais là, en fait, auprès de la justice, Meta a confirmé. Ils ont dit ah si on a utilisé ça pour l'entraînement. Alors c'est dans les modèles les grands modèles de langage, on appelle ça donc les modèles statistiques avec foultitude de paramètres pour faire croire que ça parle une langue. Donc c'est entraîné sur des grandes bases de texte, et donc là, ben, le jeu de données Book 3 qui a été utilisé, ben, il a été construit par un chercheur en intelligence artificielle depuis une extraction d'une base de données, d'une bibliothèque pirate, entre guillemets, parce que ben, c'est cette bibliothèque qui n'avait pas d'accès autorisé, c'était juste pour les amateurs, pour les enthousiastes qui voulaient créer des modèles d'intelligence artificielle, mais du coup, pour un usage commercial, c'est chaud, quoi. T'as pas payé les droits. Pas de problème.
Alors jusqu'où va le droit de citation, ce sera le...
Oui, c'est compliqué.
Il y a quand même une jurisprudence
en place. Il y a un gros vide pour l'instant.
On va rester sur l'intelligence artificielle.
Non. Et,
écoute, c'est toi qui as mis ces actualités, Pierre. Il y a un moment, si t'as pas envie d'en parler, on en parle ou pas?
J'ai pas envie qu'on en parle, donc j'ai pas envie qu'il fasse des trucs. Surtout ça.
D'accord. Mais bon, on ne va pas se cacher les yeux non plus. Google, donc cette fois-ci, avec son navigateur Chrome, qui aura pour les versions Windows et macOS des fonctionnalités expérimentales d'intelligence artificielle.
Oui, trop génial. Alors,
on n'utilise pas Chrome. Même si de temps en temps, tu es arrivé, tu utilisais Chromium, parce que certains sites leur page comme des corées, leur mise en page comme des corées, j'ai été contre.
Ça arrive. Mais donc là, en l'occurrence, du coup, l'intelligence artificielle dans le navigateur, ça va être pour proposer automatiquement de grouper pour vous vos onglets. Ça va analyser, dire « Ah, je pense que ces onglets, ils vont bien ensemble, je t'en fais un groupe. Pour ma part, j'avoue, c'est quelque chose que j'ai envie de coder pour préparer l'émission. Mais ça, c'est un autre débat. J'ai jamais eu le temps. Ils ont envie de créer automatiquement des thèmes en fonction de ce que vous faites sur Internet, de vos humeurs, de vos envies. Et donc, à partir notamment du travail de vrais humains, du coup, hein, des vrais artistes qui auront fait des trucs, ils vont piller le contenu pour créer un thème pour votre navigateur web. C'est génial. Et accessoirement aussi, donc, ce sera la possibilité de remplir automatiquement du texte pour vous dans un formulaire... mais de la génération de texte, là, pour le coup.
Ouais, pas juste reprendre... Voilà. D'accord, je vois.
C'est une révolution, c'est fantastique, ça va changer le monde.
Une révolution, tiens. On va passer à un des vétérans des GAFAM, hein, les deux anciens, le M et le A. Ouais. Ceci, ce sera le A, hein, donc à propos du DMA et du DSA. Donc, Pierre, tu vas nous présenter les annonces d'Apple à ce sujet.
Oui.
Si tu veux bien, hein, si vraiment... Cette...
Oui, alors, les annonces d'Apple... Je suis tombé sur l'un des premiers articles que j'ai vu qui en parlait. C'était un article qui était plutôt en mode bon, bah, c'est bien ça. Apple doit bouger. Apple va être obligé de changer ses habitudes grâce au projet de loi européen. C'est bien. Puis après, il y a eu tous les avis des autres. Et là, c'était ok, non, c'est pas si bien que ça. Donc, petit rappel, DMA, DSA. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt sur le DSA. DMA, je crois, pour ce que doit faire Apple.
Oui, DMA, en tout cas pour le marketplace.
Oui, mais comme les deux projets sont sortis en même temps et qu'ils ont un nom très proche et qu'ils touchent un peu aux mêmes choses, c'est un peu compliqué de savoir lequel concerne qui. Donc, Apple est obligé de se conformer à ces nouveaux règlements qui imposent, bah, notamment, on en parlait juste avant, la possibilité d'installer un navigateur web alternatif sur iOS, par exemple. La possibilité d'utiliser un autre magasin d'applications, ce genre de choses. Et donc, Apple a fait toute une annonce, gros blabla pour dire « Ouais, donc désormais, c'est possible, blablabla, blablabla. » Alors, c'est possible, mais c'est là que ça devient plus rigolo. Donc déjà, c'est possible, mais par contre, un développeur d'application qui diffuse ses applications en dehors de l'Apple Store, enfin du store d'Apple, il va devoir payer 50 centimes par an par installation au-delà du million. Ça déjà, c'est quand même, ça peut vite monter pour des grosses applications, des Spotify ou autres qui sont installées par des dizaines, des centaines de millions de personnes. Ça peut vite chiffrer. Accessoirement, c'est par installation, par an, mais ça veut dire que quelqu'un qui applique une mise à jour, c'est une installation. Voilà. Donc, si tu as chaque mise à jour, ça va être décompté. Et ils disent, ah oui, bah 1 million, ça fait qu'il y a moins de 1% des développeurs qui devront payer ce prix-là. Oui, mais sauf que ceux qui vont devoir payer, ça va être colossal. Firefox, par exemple, s'ils étaient diffusés avec ça, il y aurait un problème. Parce que Firefox est gratuit et du coup, ils doivent payer une fortune. Souci. Alors, de mémoire, parce que après, c'est quand même bien un tiroir le truc. En dehors de l'App Store, il sera possible d'avoir des applications, notamment pour les banques, des applications de paiement qui utilisent le NFC.
Oui.
Ça, c'était une grosse restriction qu'il y avait jusqu'à maintenant, ce qui faisait que vous aviez le choix entre sur Apple, vous aviez Apple Pay et Apple Pay. Ça s'appelle c'est de l'abus de position dominante, hein, clairement. Encore une fois, uniquement en Europe. Et là aussi, alors maintenant, on va partir sur les critiques contre tout ce qu'a fait Apple, du coup. Mozilla, ils disent, alors, c'est gentil, mais comme c'est que en Europe, ce qu'ils ont mis en place, nous, on fait quoi ? On fait un logiciel pour l'Europe et un logiciel pour pas Europe. Il y a un problème.
Oui, ça nécessite des ressources en plus, quoi, finalement.
Oui.
Ouais. Ils n'ont pas vraiment.
Oui, ça respecte la loi, mais du coup, l'esprit n'est pas là. Après, il y a le cas de Spotify et d'autres grands réseaux d'applications qui disent non, mais le prix de 50 centimes par application par an, c'est exorbitant. Surtout sur des applications gratuites. Il y a des règles en plus. Alors, je ne vous les ai pas toutes dites parce qu'il y en a plein. C'est des calculs de notaires. C'est horrible. C'est des oui, alors là, les frais ils sont de autant de pourcents si vous n'utilisez pas tel truc, mais si vous utilisez tel autre, ça. Il y a des calculs hyper chiants, mais en fait, grosso modo, ils ont fait ce qu'ils estiment être le minimum légal pour respecter le DMA et dire oh, c'est bon, on le fait, pas de problème. Donc, à suivre. Sachant que notre cher. C'est Breton qui a fait ça, je crois, oui.
Notre commissaire européen.
Oui, notre cher commissaire européen a dit. Ça va chauffer s'ils ne respectent pas la loi.
Oui, ça, par contre, effectivement, c'est prévu en fait, dans les textes, effectivement, que s'ils ne respectent pas. C'est pour ça que je pense qu'Apple a quand même bougé un minimum, parce que là, ils ont bien vu que c'était du sérieux quand même.
Oui, mais ils ont bougé au minimum.
Au minimum.
C'est ça le problème.
Ah, ça, on pouvait s'y attendre. Hein,
on peut s'y attendre. Maintenant,
c'est Spatzel qui se base au strict minimum pour être dans les clous et qui rend ça dans les faits inutilisable. Là, c'est pas surprenant. On va rester avec Apple. Ouais. Et donc, les utilisateurs de Beeper, dont je apprends l'existence, donc ce logiciel.
On en avait parlé, t'écoutes pas quand je parle.
Tu parles tellement. Beeper, donc, qui permet d'envoyer des e-messages, donc la messagerie propriétaire d'Apple. Avec un Android, donc ces utilisateurs ne peuvent donc se font bloquer leur Mac, donc leur Macintosh,
oui, leur ordinateur Apple,
leur ordinateur Apple sur iMessage.
Tout à fait. Alors, la petite histoire, on en a donc parlé, j'en avais parlé en illustration du coup du côté fermé de la plateforme Apple. Apple a fait e-message et a dit « Ah, bah, y a que nous qui pouvons faire du e-message et personne d'autre ». Les gens de l'entreprise Beeper ont fait « Eh ben, on a fait du reverse engineering et du coup, maintenant, on est capable de faire un Beeper », ils ont appelé ça. Le logiciel s'appelle Beeper et puis ça marche sur Android. Regardez, on arrive à parler à des machines e-message et on ne se fait pas discriminer. On a bien les bulles de la même couleur que les gens sous iPhone. Du coup, il y a eu un jeu de chat et de la souris entre Apple et Beeper et à la fin, c'est Apple qui a gagné. Grosso modo, à Beeper, ils ont dit « Bon, ok, bon. » On peut pas, on se fait bannir systématiquement, on se fait bloquer partout. Et ce qui restait comme solution, c'était pour les gens qui ont un ordinateur Apple, donc sous macOS, et qui ont donc e-message sur l'ordinateur, ils pouvaient installer un logiciel de l'entreprise Beeper qui faisait passerelle vers leur Android. Pardon. Et bien donc les gens qui faisaient ça, maintenant, ils se font bannir leurs ordinateurs Apple, leur Mac de e-message. C'est encore une fois, est-ce que c'est de la bulle position dominante? Je pense pas, mais
ils
c'est
sont pas en position dominante.
Voilà. Mais c'est
de
la bulle tout court. Tout court
disons que c'est un prétexte fallacieux en fait, parce que a priori, Apple dit oui, mais il y a une suspicion en fait de spam, en fait de trop de messages envoyés en fait en un temps très court, blablabla. Donc. Mais oui, c'est des prétextes fallacieux, alors qu'il est bien plus probable qu'ils veulent juste bloquer les utilisateurs de Beeper.
La quadrature du net dénonce encore une fois l'utilisation par la police de logiciels prédictifs, censés donc prédire à quel moment un crime...
Un crime aura lieu.
Ouais. Hein. Il paraît qu'il y a un film là-dessus.
Ouais.
Donc, parmi donc, ces logiciels, donc RTM, hein, logiciel donc, de prévention situationnelle, donc, qui cible les zones à risque, le logiciel Prévol, je ne sais pas comment il prononce, hein. Il a été abandonné donc, assez rapidement, en fait, et il servait donc à évaluer le risque de vol de voiture. Okay, la probabilité.
Les agents l'ayant utilisé l'ont qualifié d'expérimentation ridicule, de résultat dénué de sens et de scientificité et d'expérience qui fait mal.
Alors, il y a des stats en plus hein, qui sont souvent publiées sur quels sont les modèles les plus à risque.
Oui, mais c'était bien d'avoir l'avis.
Si vous laissez une voiture de grande valeur et que vous oubliez de verrouiller la porte, je pense que vous avez une probabilité beaucoup plus élevée de vous la faire piquer.
Oui.
Donc on avait également... On a également Paved, la plateforme d'analyse et de visualisation évolutive de la délinquance, d'intelligence artificielle donc, qui, pareil, permet d'évoluer, selon ses auteurs, le risque de vol de voiture ou de cambriolage. Bon, c'est un peu les préoccupations voilà, du français lambda. Hein. C'est quand même les problèmes. On parle beaucoup la PMD, la petite et moyenne délinquance. Donc il y a M-Pulse, qui était nommé donc a priori auparavant le Big Data de la tranquillité publique. C'est un nom très poétique. Développé donc par la ville de Marseille et son inénarrable Jean-Paul Godeng, l'ancien maire, je sais pas. En fait.
On n'a pas la liste.
Ça permet,
plus,
de,
mais...
voilà, ça permet de vérifier si le déploiement policier était bien en adéquation avec les besoins du quartier. Et donc pour finir, Smart Police, qui possédait un modèle prédictif, ouais, pas trop non plus de.
On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait, non.
La finalité, c'est toujours de prédire quelles sont les zones les plus à risque, et quelles sont les crimes et délits qui risquent de se produire dans un endroit donné. Donc, mais là-dessus, ça utilise donc des algorithmes, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre des données passées et puis on va essayer de prévoir à partir de ça. Hein, en gros, l'analyse prédictive, ça part du principe que le passé prédit l'avenir. Donc, c'est pas sur une intelligence. Et donc, ça utilise des biais de genre, des biais raciaux, des biais liés à la pauvreté également, hein, ce qui rappelle l'algorithme de contrôle de la CAF, hein, dont on a parlé il y a deux ou trois émissions. Donc, quand on parle d'algorithme, on parle de prédiction, on prétend utiliser des données objectives, alors qu'en réalité, on ne fait que reprendre des stéréotypes des personnes, des gens qui ont réalisé ces modèles. Une petite nouvelle, moi, je m'a fait un petit peu rire, tiens, c'est petit retour en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez des Fuzzbee. Les Furby, c'est de petites peluches parlantes, et donc avec qui vous pouvez discuter. Hein, donc, vous pouvez éventuellement enregistrer, en tout cas, c'est la peur qui avait pris les agents de la NSA, que ça puisse être utilisé pour faire de l'espionnage. Donc, il parlait à l'époque d'intelligence artificielle. Alors, on a l'impression que c'est une nouveauté, mais tous les 10 ans, on parle de manière cyclique d'une évolution de l'intelligence artificielle qui va bientôt pouvoir nous remplacer, qui va pouvoir faire de nouvelles choses, une espèce de cycle de flux et de reflux de l'intelligence artificielle. Donc là, ils avaient peur qu'un Fursby placé à un endroit stratégique, là où il y avait des conversations potentiellement qui pouvaient être employées, voilà, tenu des propos relatifs à des secrets de la défense pour l'américaine, parce que c'est la NSA, puisse être enregistré, vous reprenez le Fursby, et ça puisse, donc du coup, avec une l'intelligence embarquée, hein, ce qu'on pensait être l'intelligence embarquée, puisse permettre de récupérer des données confidentielles. Voilà. Un petit peu amusant. On va écouter des actualités sur les logiciels libres, bien évidemment, après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Zara Arshakian, Leuna Douaï. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campus libre. Somewhere in the dawn and light, and there's no turning back. Driving somewhere in the morning, my world is slowly burning now. How is my life? Zara Arshakian, Leuna Douaï. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre à campuslille.com. On va vous présenter des actualités sur les logiciels libres, bien évidemment. Et petite anecdote, Linux et la tempête, comme quoi une panne de courant, ça peut des fois provoquer des effets inattendus.
Ben oui, en fait, c'est surtout aussi pour illustrer que ben, le développement du noyau Linux, ben, ça reste encore un projet très, très humain au final. On n'est pas sur le truc de... on n'est pas sur un projet de très grosse entreprise, le truc qui marche tout le temps, qui est infaillible. Bah là, c'est Linus Torvalds à sa maison, à cause de la tempête de neige, il n'y avait plus d'électricité. Bah, du coup, le développement a été retardé sur la nouvelle version. Il y a eu un retard de plus d'une semaine. Voilà. Alors, c'est juste pour l'anecdote. C'est juste pour démontrer, voilà, c'est toujours un projet à échelle humaine, étonnamment. Voilà.
Eh oui, mais on a beau être un projet de haute technologie, hyper connecté, décentralisé, on est toujours tributaire des éléments, quoi qu'il arrive. C'est le petit rappel de Pierre. Alors, tu dénonces régulièrement le fait que personne ne veut payer pour le logiciel libre, que libre n'est pas gratuit, que chacun prend, surtout, alors, pour les utilisateurs, ça peut être pardonnable, mais pour des entreprises, tu expliques ça difficilement, enfin, tu l'expliques difficilement, tu le pardonnes difficilement, en tout cas. Donc, tu fais l'écho, donc, d'une tribune, hein.
C'est ça.
Sur LWN.net, donc de Jonathan Corbett, donc, qui reprend une bonne partie, en fait.
Ah ben, ça reprend régulièrement. Oui. Hein. Oui, tout à fait. C'est juste, c'était l'occasion aussi d'en reparler. Donc, alors, cette tribune, elle est assez intéressante pour ceux qui sont intéressés. Vous pourrez chercher sur le podcast de l'émission le lien vers le wiki. Il y a un lien derrière vers l'article en anglais. Donc, c'est un article qui est payant actuellement, mais voilà, j'ai mis un lien qui donne accès à tout le monde gratuitement.
Donc, je rappelle que toutes nos sources sont disponibles sur le wiki wiki.chnix.org et sur la page de chaque podcast, vous pouvez donc retrouver la page qui correspond à l'émission.
Et donc là, grosso modo, c'est un résumé de, bon, ok, donc dans les années 90, Linux avait un énorme retard, mais les bénévoles, par on ne sait quel miracle, ont réussi l'impossible de créer un système d'exploitation complet. Et mais maintenant, le problème, c'est que plus personne... Aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprise pour développer l'environnement de bureau sous Linux. Il reste encore un peu de Red Hat pour du GNOME, mais Red Hat a même dû abandonner le travail sur LibreOffice. Canonical, ils ont quasiment abandonné. Ils ont éradiqué la moitié des postes qu'ils avaient sur l'environnement graphique. Il reste vraiment plus grand monde. Il y a aussi des problèmes. Mais alors, on va dire, oui, l'environnement de bureau, oui, mais Linux, le bureau, ça, voilà, c'est compliqué, il n'y a pas les parts de marché. Ok. On va dire, ok, d'accord, on a une explication pour celui-là. Le noyau Linux, aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure de test. Est-ce que c'est parce que les gens ne veulent pas le faire ? Non, c'est parce que ça coûte de l'argent et personne, absolument personne, ne veut le faire. Parce que tout le monde doit se dire, oh, c'est bon, c'est quelqu'un d'autre qui va payer.
Il y a des théories économiques là-dessus. Hein.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord.
C'est bien le cours qu'on a eu. Hein,
oui, et j'ai essayé de me souvenir le nom et j'aurais dû réviser. Mais j'étais malade cet après-midi. Je vais expliquer
comme ça notre prof d'économie. Tout le monde a intérêt à le faire, mais on a encore plus intérêt à ce que quelqu'un d'autre le fasse.
Exactement. Et ben, c'est exactement le problème qu'on a là. Et donc, la discussion, alors, je ne suis pas aussi pessimiste que ça sur la fin. C'est de dire, bon, donc, il n'y a personne qui paye, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui se met en place. Pour financer le développement, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va se retrouver comme aux origines avec des gens qui bossent sur leur temps libre et qui développent tout le système sur leur temps libre ? Je ne sais pas si on arrivera à cet extrême-là. Dans le cas l'un des exemples qui est pris, c'est le projet KDE, parce que le projet KDE n'est plus l'environnement de bureau KDE n'est plus présent dans les dernières versions de Red Hat. Et la raison n'est pas oui, on n'aime pas KDE ou quoi que ce soit, c'est juste que Red Hat n'a pas un budget infini, et du coup, supporter KDE en plus de GNOME, ça leur faisait trop de dépenses.
Ils n'arrivent pas à vendre KDE, a priori.
Ils n'arrivent pas à vendre de bureau tout court, en fait. Red Hat Enterprise Linux, en poste de travail, c'est inexistant quasiment. C'est du serveur quasiment que ça. Ils vendent en poste de travail, mais c'est à la marge.
Et 2024 n'est toujours pas l'année du desktop pour Linux.
Et justement, j'allais y revenir. Il y a un point positif que moi je vois par contre et qui n'est pas évoqué dans l'article, c'est Valve. La console de jeu. Alors certes, il y a toute une partie où ça ne fait que la boutique de jeu, mais derrière, il y a un environnement de bureau Linux complet. C'est un KDE qui tourne. Et il contribue du coup au développement de KDE. Alors certes, au développement des trucs qui les intéressent, mais là on a un exemple d'une entreprise qui a créé un produit grand public sous Linux, et un produit grand public sous Linux, un vrai produit, pas un Android qui utilise juste Linux et qui tord le bras à tout le reste, Et là, on a un exemple de quelque chose donc, qui a respecté la communauté et qui se développe plutôt bien. Donc, je ne suis pas aussi pessimiste que l'article, mais effectivement, dans l'ensemble, il y a très, 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 très peu, mais il y a même trop peu d'efforts qui sont faits sur un développement en faveur du collectif. Les entreprises ont toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire ne penser qu'à leur rendement à court terme. C'est... Même s'ils ont besoin que ça fonctionne sur la durée, ils ne vont pas faire le nécessaire.
C'est vrai, il faut des... Donc,
il faut des gens qui réfléchissent.
Oui, mais surtout, il faut un cadre gouvernemental et on ne cesse d'expliquer que les contraintes aux entreprises,
c'est pas bien. Voilà.
Oui, et puis il faut des visions à long terme. En fait, et justement, ça, c'est ce qu'a eu Valve. En fait, c'est parce que ça remonte à loin. En fait, je pense que la première annonce de SteamOS doit dater du début 2010. En fait, et je pense que. Je pense les origines du projet, on veut faire ça en fait. Quand je dis les premières annonces, il n'y avait encore rien de fait, mais on veut le faire, on veut en arriver à cette étape-là, un jour. Et je pense que les premières bêtas...
2013, voilà. 2013.
2013, la première vraiment chose qui...
Première annonce.
2013, ah voilà. Oui, je voyais ça un petit peu plus... Et je pense que les premières annonces... Choses concrètes ont dû commencer vers 2015, peut-être vers.
Il faudrait que j'aille rechercher les vieux articles de l'émission pour voir quand c'est
les tout débuts, en fait. Mais effectivement, ils ont tenu, ils ont pas lâché l'affaire et ils sont arrivés à faire quelque chose, effectivement, qui fonctionne, en fait, et qui est grand public. Effectivement, là, j'ai une grande majorité de jeux, en fait, actuellement, arrivent à fonctionner sous SteamOS. De manière grand public.
Tout à fait.
Alors, les additions, a priori, ça ne devrait pas poser problème à un ordinateur, mais a priori, Pierre, c'est un petit peu plus compliqué.
Ouais, je me suis dit que c'était l'occasion de parler juste de ça. Une micro-déguicalisation dans les actus logiciels, il n'y en avait pas assez en ce moment.
Ça glisse comme ça, hop.
Non, c'est très rigolo, et donc il y a un développement en cours sur le noyau Linux pour améliorer la gestion des additions. Effectivement.
Ça paraît assez trivial.
Tout à fait. Attends. Donc, Alexandre,
oui, Pierre.
Petit exercice de mathématiques. 16 plus 1
17.
C'est pas vrai, parce que ça va dépendre si tes nombres, ils sont si ton espace de nombres, il s'arrête à 16, 16 plus 1, ça va retomber à
0. Ça fait 0,
ça va retomber à 0, ça va boucler. Et c'est tout le problème. Et
c'est le principe du dépassement d'entier.
Exactement, et on a ça dans tous les logiciels quasiment. Il n'y a que certains logiciels dans des langages très spécifiques qui vont être utilisés, notamment en aéronautique ou aérospatiale, et encore pas tout le temps.
En informatique, quand vous définissez dans le code un nombre, vous dites quelle est la taille du nombre maximum.
C'est ça. Et quand tu dépasses le maximum, ça fait des chocs à pic. Et ça peut même souvent faire des failles de sécurité. Et donc là, dans le cas du noyau Linux, il commence à y avoir tout un travail pour dire comment on peut faire pour mieux se protéger sans détruire les performances. Et il y a toute une grosse réflexion à avoir autour de ça. Et donc c'est en cours, c'est pour la sécurité comme d'habitude. Et je croyais que ça valait le coup d'en parler.
Alors un projet, je ne sais pas si on en a parlé récemment, on en avait parlé, mais le projet Fuchsia, donc, qui est un système d'exploitation avec un nouveau noyau par Google, donc, qui n'est pas basé sur Linux, sur Minix ou sur autre chose, donc sur BIOS ou sur Haiku.
Voilà. Mais non, c'est leur noyau à eux, là.
Et donc, est-ce que Google y croit? On peut en douter si on apprend donc qu'ils ne comptent pas porter leur navigateur internet, Chrome, sur le système, sur Fuchsia.
Plus exactement, ils ne comptent plus le porter. Tu vois,
ils avaient envisagé de le faire.
Ah non, c'est plus qu'envisagé. Ils avaient commencé à faire du code et tout.
Mais non, ils arrêtent.
À fond.
Et maintenant, à fond dans le gravier.
Et c'est ça, gravier. Donc, Fuchsia, on en avait parlé. Une grosse crainte que j'avais, c'était qu'ils commencent à avoir des versions d'Android basées sur Fuchsia, notamment. Ça aurait pu commencer à piquer pour Linux. Parce que ça aurait fait quand même un grand pan d'utilisation de Linux qui disparaît, même si c'est pas du vrai Linux sous Android. Mais donc là, clairement, Fuchsia, c'est sur une voie de garage, et c'est juste, j'en avais déjà parlé il y a quelques temps du fait que c'est en train de décéder, c'est une démonstration que même aujourd'hui, une entreprise qui a l'argenterie, la réserve de cash d'un Google, une entreprise comme ça n'arrive plus à créer un OS, un nouveau système d'exploitation. C'est aujourd'hui, on est arrivé à une situation où c'est fini, on ne peut plus. Il n'y a plus de création. C'est gênant.
C'est que, en gros, cette création n'intéresse plus qu'éventuellement de la recherche. Il n'y a plus d'intérêt économique.
Bah, c'est même pas qu'il y a... Il y a un intérêt technique et il y a un intérêt économique, mais c'est juste le défi est trop important et trop coûteux.
Si c'est trop coûteux, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt économique.
Un intérêt économique très loin. Mais du coup, ça coûte trop cher pour aller jusque là-bas et ensuite gagner de l'argent. Donc, si tu as besoin de 10 ans pour revenir sur ton investissement, tu ne le fais pas, l'investissement. Mais au bout de 10 ans, ça aurait pu être rentable. Là, on est sur un... En fait, c'est devenu tellement compliqué de faire un système d'exploitation sur... Alors là, il ciblait à la fois du matériel où c'est relativement facile, les téléphones, c'est jouable, mais encore, avec des grosses, grosses limites. L'ordinateur fixe et portable, n'en parlons plus. Ben voilà, c'est... Aujourd'hui, même Google n'y arrive plus. Moi, ça me fait peur. Du coup, niveau innovation, ben, il restera Linux et puis Windows, un petit coin de macOS.
Voilà. On va parler les suivantes, ce sera plutôt du monde Windows, en tout cas la compatibilité Windows-Linux, et un pilote NT5.
NT5.
Hein, pas 5, NT5 ouais. XP, quoi. Va être disponible sur Linux.
Tout à fait. Alors, NT5 va être disponible. Il a été proposé, nuance, s'il te plaît. Il va peut-être pas forcément être accepté, mais je trouve ça assez cocasse, pour le coup, l'idée d'avoir sur mon ordinateur Linux, donc sous Linux, avoir un fichier quelque part qui portera le nom de NT, donc du nom du noyau Windows. Alors, pour les détails techniques, il s'agit d'une proposition du projet Wine qui sert à faire tourner des applications Windows sous Linux. Et ils se rendent compte que ben, pour certaines applications modernes, pour améliorer les performances des applications, ils ont besoin que certaines choses soient gérées par le noyau plutôt que gérées par Wine hors du noyau. Et donc, ils ont proposé ce patch.
Et à propos de Wine, sortie de la version 9.0.
Exactement.
Avec un meilleur support de Direct3D, notamment.
Comme d'habitude, hein, c'est... il y en a plein, des changements. Mais en fait, Wine, ils ont un cycle de sortie. Ils sortent une grande version au début de chaque année, puis après, ils ont des itérations à chaque fois de version de développement. En gros, la version 9, c'est l'aboutissement de 25 versions intermédiaires sorties en 2023. Je dis pas de bêtises. Et donc, bah, notamment le début du support de Wayland, l'amélioration de la 3D, l'amélioration du support de l'ARM. Donc pour ceux qui veulent faire tourner des applications Windows pour ARM, s'ils en trouvent et qu'ils ont une machine sous ARM, ça fait beaucoup de si. Mais voilà, ces gens-là peuvent.
Les trois personnes.
Voilà, t'es optimiste. J'allais dire 7 personnes dans le monde. Enfin, une, mais bon. Donc l'amélioration de plein de choses, comme d'habitude. Et petit rappel, hein, Wine, c'est aussi la base pour Proton, qui est utilisée par Steam pour faire tourner les jeux. Donc en général, les gens utilisent plutôt Proton que Steam, plutôt Proto que Wine maintenant pour faire les jeux, mais...
Une bonne nouvelle pour finir, on peut enfin, a priori, commencer à utiliser des webcams Intel modernes sur du Linux.
Tout à fait. De mémoire, j'avoue, j'ai pas fouillé mes archives. De mémoire, on en avait déjà parlé il y a quelques années, vers 2022, du coup, on aurait dû en parler. Les nouveaux ordinateurs portables sous Intel ont des webcams qui sont largement incompatibles Linux. Parce que, petit problème technique, et en fait, le système est beaucoup, 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 plein de beaucoup, plus complexe qu'avant à implémenter, et Intel n'a jamais développé de pilote pour Linux. En tout cas, de pilote libre.
Pourtant, ils étaient bons élèves, notamment sur les cartes graphiques. Je parle de ça
il y a longtemps. Ils continuent d'être à peu près corrects sur les cartes graphiques, mais par manque de choix, on va dire. Mais voilà, là, il a fallu attendre, du coup, c'est des ordinateurs portables qui ont commencé à sortir en 2022. Et donc là, il faut attendre 2024 pour qu'on commence enfin à avoir les logiciels requis pour utiliser ces caméras sous Linux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des histoires de webcam incompatibles Linux.
D'autres actualités diverses et variées après un second morceau de musique, nous allons écouter Singleton, Ways Storm is Near. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 11,6, la radio numérique terrestre et campusil.com.
I'm fast, but I need more time.
C'était Singleton Ways. Vous écoutez l'écho des news sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la troisième partie des actualités. Toujours des actualités diverses et variées, libres. Post-vérité, Google se fiche de savoir si le contenu est fait par un humain ou par une intelligence artificielle. Et effectivement, hein, d'expérience, vous avez de plus en plus de contenu à la banque moelleuse généré par des robots qui polluent vos recherches.
Voilà, il l'avoue.
Ils s'en fichent.
Bon, il n'y a pas de problème.
C'est pas un critère de tri pour Google.
Non, voilà, il n'y a pas de problème. Ils tentent de lutter contre le spam, mais ils ne se préoccupent pas de savoir si l'article a été rédigé par une IA ou un humain. Voilà, ils l'ont dit. C'est tout. Ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Donc, c'est bien, hein, niveau la mise en avant de certaines actualités et autres fonctionnalités qu'ils vont développer du coup chez Google. Il faut se dire que c'est basé sur des délires intelligence artificielle, ça va être fabuleux.
Alors, actuellement, tous les efforts faits pour surveiller, pour tracer votre vie privée, a pour but essentiellement de vendre de la publicité, notamment par Google, mais pas que. Mais il y a également, donc, du coup, des effets sur réellement le respect de la vie privée, puisque il y a une certaine porosité entre la surveillance de la population via les liens publicitaires, via les cookies, et des entreprises de surveillance policière, Pierre.
Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, c'est autour de, alors, Patterns, qui est un ancêtre de Pegasus, qui a défrayé l'actualité il y a quelques temps déjà. Et donc, on apprend dans tout un article publié sur Next, on apprend que, voilà, effectivement, il y a une porosité et, grosso modo, ils aidaient les agences, notamment la NSA, les services secrets de différents États, plus ou moins démocrates, hein, on s'en fout tant qu'ils payent. Ils étaient assistés pour la recherche de patterns au sein de l'audience et du comportement des utilisateurs en utilisant tout simplement les données publicitaires. Et les données, tout ce qui était analytics, notamment les équivalents de Google Analytics et autres qui existent. Donc voilà, tranquillou. Donc la publicité, non seulement ça pollue, ça pollue à la fois au niveau écologique, mais aussi ça pollue la tête. Et en plus, du coup, on peut dire que c'est utilisé pour de l'espionnage, tout simplement.
De la surveillance de la population, quoi.
Oui,
Vous avez parlé lors de la précédente émission du Cyber Resilience Act, donc un projet de directive européenne dont les effets sont assez mal connus. On a l'avis de la Python Software Foundation et pour eux, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Alors, sur les dernières évolutions, ils disent que ça a l'air plutôt bien maintenant. En fait, donc, en avril l'année dernière, ils faisaient partie de ceux qui avaient très peur du CRA. Et donc là, maintenant, ils disent tous les changements du texte, ça fait que ça a l'air plutôt bon. En fait, il y a la notion de Open Source Steward. Donc, c'est une entité légale, autre qu'un fabricant, qui s'occupe de fournir le support pour un développement, un produit spécifique. Alors, je vous passe. J'essaye de vous le donner sans le blabla légal qu'il y a autour qui rend ça très compliqué. Mais c'est pas garanti que tout soit vert dans le CRA. Moi, pour ma part, j'ai vraiment hâte que ce genre de texte passe parce qu'il y a des tonnes de comportements qui sont anormaux du côté des entreprises que j'aimerais bien voir disparaître. Et donc, l'inquiétude qu'il y avait, alors moi, j'avais déjà dit à l'époque, j'avais dit que je trouvais que l'inquiétude n'était pas nécessaire, surtout quand je voyais, moi, des GitHub et donc derrière des Microsoft s'inquiéter. Si eux s'inquiètent, moi ça me rassure. Donc en général, pas trop envie d'écouter ces gens-là.
Dans la rubrique nécrologie, tu voulais donc parler du décès de David L. Mills, donc le créateur de NTP, donc protocole de mise à l'heure qui est le plus utilisé.
Le protocole
de mise à l'heure de référence.
Tout à fait. Il y a eu d'autres activités aussi à l'époque de la création d'Internet. Hein, tout simplement, c'est un ingénieur qui a travaillé dans les années 80 sur différents protocoles de la création d'Internet. Et voilà, c'est le genre de grand nom de l'informatique qui disparaît. Et malheureusement, ça, on n'en parlera pas trop dans les grands médias. Donc, rappel, le protocole NTP, le principe, c'est de pouvoir synchroniser les horloges des ordinateurs entre eux à travers Internet, alors que entre vos deux ordinateurs, il y a un réseau avec une latence variable. Donc, comment qu'on fait?
Parce qu'il y a quand même une partie algorithmique qui est pas facile. Sur le principe, ça a l'air simple.
Oui, puis...
Alors, quand vous vous intéressez un petit peu au mécanisme, c'est assez complexe pour éviter les sauts de temps et pour synchroniser, donc, du coup, avec différentes couches, parce qu'il y a différentes strates. La strate 0, c'est les horloges atomiques, et après, ça redescend jusqu'à...
Voilà, tout à fait. Il y a aussi, je crois aussi que c'était dès le départ dans le protocole NTP, la notion de strate. Pour une raison toute simple, c'est que quand on interroge une horloge, on la perturbe.
Mmh.
Donc il faut que les horloges atomiques qui sont hyper fiables, il n'y a que 3 à 4 personnes qui veulent les interroger seulement et rarement. Et donc derrière, les gens qui interrogent, enfin, en fait, c'est toute une chaîne qui propage l'information. Pour éviter que, ben voilà, on perde de l'heure.
On termine les actualités avec donc des informations aussi donc un rapport parlementaire qui a été réalisé par les députés donc Anne Le Hennaff du parti Horizon, donc parti allié à la majorité présidentielle, c'est le parti d'Edouard Philippe, et Frédéric Mathieu, député LFI. Donc il pointe le doigt par rapport, je dirais, au risque de dépendance par rapport à Microsoft. On parle beaucoup sur le logiciel propriétaire, donc l'armée, comme beaucoup d'entreprises, et l'armée qui une des garantes de la souveraineté du pays, donc ne maîtrise pas tout le code source des logiciels qui traitent de ces données. Mais il pointe effectivement un autre problème, c'est le risque en fait avec la politique de Microsoft, c'est pas les seuls, mais c'est quand même un des leaders dans cette démarche, de vouloir éliminer petit à petit les logiciels qui tournent sur votre ordinateur pour faire de l'ordinateur du software as a service. Donc vous louez en fait la possibilité d'utiliser un logiciel sur des serveurs de Microsoft, c'est que on finisse par arriver à une situation où même si l'armée veut du Microsoft, en fait ils seront plus capables d'exploiter eux-mêmes leur propre logiciel, puisque au final les solutions seront obsolètes et les mises à jour de sécurité ne seraient plus faites. Donc c'est un axe que ça travaille. On connaît, pour les auditeurs habituels ou ceux qui connaissent un petit peu le sujet, le contrat Open Bar. Hein, donc,
oui, le fameux.
Le fameux contrat Open Bar, c'est-à-dire que l'armée paye le ministère de la Défense paye une somme forfaitaire et puis peut utiliser autant de logiciels qu'il veut en fonction du nombre d'ordinateurs. Donc voilà, il y a une prise de conscience des parlementaires, ce qui est déjà une bonne chose, dont un parlementaire de la majorité.
Et puis heureusement que les parlementaires ont la main sur la gestion de l'armée en France. Voilà.
Hashtag domaine réservé. Alors il y a certains. Ce rapport pointe aussi les freins, c'est que le logiciel libre, c'est pas gratuit, c'est vrai, ça demande des compétences. Alors ils mettent effectivement dans les arguments la complication à avoir du personnel qualifié. Bon, c'est également un souci qui est réel. Donc, bon, en tout cas, il y a une problématique qui est identifiée. On va écouter rapidement un troisième morceau de musique avant la dédicalisation. Très vite, Cole Powell, Not One to Say. Vous écoutez-nous sur Radio Campus, en site de la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Yeah. his call. Your heart is sinking, skin is crawling. You know your world's about to fall on down. No, inside there's no use waiting anymore. Still don't know why.
C'était Cole Powell, Not the One to Say I Told You So. Vous écoutez les Codes sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégicalisation. Pierre va nous faire un peu d'archéologie. Il a retrouvé un vieil artefact.
C'est pas moi qui ai retrouvé le vieil artefact. J'ai pas ce genre de truc chez moi. S'il te plaît, si j'avais ça, honnêtement.
Il a découvert qu'on a retrouvé un vieil artefact.
Tout à fait.
Un vieux système d'exploitation.
Ah non, mais vieux.
Vieux, vieux.
Alors, tellement vieux qu'on ne sait pas de quand il date.
C'est-à-dire.
C'est dire. Et donc, là, on va plonger un petit peu dans l'histoire. Ça va être l'occasion. Je pense que je me rends compte qu'il faut. Je vais peut-être faire une série de dégeekisation. Alors, on discontinue sur un peu d'histoire de l'informatique. Parce que, mine de rien, il y a pas mal de choses à dire et qui expliquent un peu comment on en est arrivé au bordel qu'on a aujourd'hui. Et donc là, il s'agit de quelques disquettes d'une version qui n'existait pas de 86 DOS. Mais qu'est-ce que c'est 86 DOS ? Donc, reprenons l'histoire dans le sens inverse. Windows, avant Windows sur les ordinateurs type PC, Microsoft vendait MS-DOS ou vendu par IBM sous le nom de PC-DOS. Mais c'est pas Microsoft qui a créé MS-DOS ou PC-DOS. Microsoft a acheté à Seattle Computer et j'ai mon anti-sèche ici, Seattle Computer Products, ils ont racheté 86 DOS, connu en interne sous le nom de QDOS, Quick and Dirty Operating System, qui avait été conçu pour les ordinateurs de cette entreprise. Les disquettes qu'on a retrouvées, ça date d'une version d'avant le rachat par Microsoft, d'avant tout ça, ça date du début des années 80. On ne sait pas exactement de quand c'est.
C'est quoi, c'est des disquettes 5 pouces 1 quart ?
A priori, oui.
On sait encore les lire ?
Oui, on a su les lire, on a su en faire des images pour que ça parte dans un musée numérique. On a retrouvé, du coup, des traces des premiers systèmes DOS. Alors, on n'est pas sur la première version. La première version, c'est à peu près sûr qu'on ne la retrouvera jamais, malheureusement. On est sur une version 0.34 qui date au plus tard, l'étiquette de la disquette date de février 81. C'est dire si vraiment on est sur du très très vieux. Et en fait, c'est fantastique de retrouver ça parce que ça permet de retracer un pan de l'évolution. Et là, en fait, on est sur des formats de fichiers, notamment. La disquette, elle est un format où on a dû dire comment ils sont enregistrés les fichiers là ? C'est quoi ce format ? Parce que c'est des formats qui avaient été introduits avant l'introduction du FAT de DOS. C'était l'ancêtre de cette version-là. Donc ils sont en train de dire, alors on ne sait pas encore à quoi servait cet indicateur-là sur le disque, mais on sait que les autres, ça correspond à ça. En fait, on est sur vraiment de la compréhension d'un langage perdu, en quelque sorte.
Ouais, vraiment sur de l'archéologie. Okay. Oui. On peut vraiment filer la métaphore avec des civilisations qui ont des langues que l'on ne connaît pas.
C'est ça.
Tu as découvert le sumérien de l'informatique, Pierre.
Non, mais ça, ce genre de choses, c'est du sumérien, effectivement. C'est des langues perdues. Alors, dans l'eau, il y a la base d'un système DOS. Donc, il y a un commande.com, notamment. Pour ceux qui ont connu DOS, ça parle normalement à tout le monde. Et il y a quelques conneries. Alors, ça se voit que les gens étaient en train de tester, développer le système. Il y a des commandes arg, damn. Quand on tapait certains jurons, donc du coup, ça lançait un programme qui disait « Non, c'est pas bien de jurer. » Voilà, c'était un programme clairement en développement, mais c'est de l'histoire, quoi, tout ça. C'est l'histoire de DOS. Et donc, au début des années 80, avant que ce soit chez Microsoft, un système d'exploitation qui disait non, c'est pas bien de jurer. Et derrière, ça les a rendus ultra riches. C'est beau.
C'est beau.
J'ai fini.
Merci Pierre. Un petit point sur l'agenda. Merci pour cette belle découverte. Un petit point sur l'agenda. Donc, pas mal d'activités. Donc, ça commence dès mercredi. Donc, si vous nous écoutez en direct, c'est dans quelques quelques jours. Les ateliers libres à vous à Villeneuve-d'Ascq, donc de 19h30 à 22h à l'OMJC rue Yves de Cugis. Également, au même endroit, donc encore un atelier libre à vous, donc ce sera le samedi 3 février de 9h à midi. Un atelier local low-tech le mardi 6 février de 19h à 22h à Croix, 3 Place des Martyrs, petite cantine. Un mercredi Linux, donc mercredi 7 février de 19h30 à 23h30 donc à Orchy, salle des associations, 20 rue Jules Roc. Également, une install party qui aura lieu le samedi 10 février de 15h à 18h, donc à la médiathèque Marguerite Yourcenar, donc 199 rue Carnot, Fâche Tuménil, alors que c'est même pas organisé par une association, c'est organisé par une passionnée. Bon, on salue cette passionnée. Et pour finir, encore un atelier libre à vous, samedi 10 février, 9h midi, donc c'est à l'OMJC rue Yves de Cugis, c'est à quelques centaines de mètres du studio. C'était le 266e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve dans deux semaines pour le numéro 267. Nous serons le dimanche 11 février à partir de 19h. Oui, Pierre.
Le week-end prochain, il y a le FOSDEM. Hein.
Et le week-end prochain, dans l'agenda, il y a le FOSDEM, bien évidemment. Oui. Pierre, tu nous as quand même dit hors antenne que tu as peur d'être déçu et que ça ne laisse pas assez de place à la communauté.
On verra.
Tu nous feras ton retour d'expérience à cette occasion. Dans une semaine, ce sera la deuxième ligne, émission consacrée au jazz et à la Nouvelle-Orléans. Et tout de suite, comme tous les soirs à 20h sur Radio Campus, le dimanche, vous avez rendez-vous avec nos amis de Chupa Pimento et sa musique électronique. Au revoir à tous. Merci. Encore une fois, François, d'être venu.
Oui.
Merci, François.
Et à la prochaine, à ta prochaine venue à Lille. Au revoir à tous. Bonne fin de week-end.
Bye bye. Hey, j'ai oublié une blague. J'ai vu passer une offre d'emploi. Ils cherchent un ingénieur qui fasse du support Windows 3.11 en Allemagne.
Ah,
mais aujourd'hui, hein.
D'accord. Bah écoutez, une blague. Sautez dessus si vous avez une envie d'expatriation. L'écho des glous.